cette prière du Notre Père, que ton règne vienne. Qu'est-ce que ça veut dire que ton règne vienne? Ça veut dire, Seigneur, que ton royaume puisse venir sur cette terre. Bien sûr qu'un jour, le Seigneur Jésus va revenir. On en parlait vendredi soir encore, c'est vrai, du retour prochain du Seigneur. Toutes sortes de signes qui sont là et que nous voyons qui sont déjà, la plupart sont accomplis. Il en reste très peu qui sont en cours d'accomplissement. Ils ont déjà commencé à se réaliser, mais ils ne sont pas encore terminés. Et la parole de Dieu est très claire, il y a des chapitres de Jésus qui parlent de ces choses très clairement, mais qui nous montrent que le royaume de Dieu va venir rapidement s'installer sur la terre de manière physique un jour. Maintenant, le Seigneur nous a laissés sur la terre et en attendant son retour, il nous permet de vivre le royaume dans notre cœur, le royaume de Dieu dans notre cœur. La semaine dernière, on a vu deux lois, parce que dans tout royaume, il y a des lois. Il y en a une auquel je pensais tout à l'heure, parce que hier on était à la montagne avec quelques-uns, et une des lois que l'on connaît de manière physique, c'est que quand on s'expose au soleil, on devient tout rouge. C'est pour ça que vous voyez mon visage qui est totalement rouge, parce que là, on était à la montagne, on était dans un temps de soleil magnifique, et c'est vraiment merveilleux. Moi je vous conseille, parfois on est là, on a des problèmes, on a des difficultés, et au lieu d'aller se promener, au lieu d'aller contempler les merveilles de la création, on s'enferme dans sa maison, on reste cloîtré sur soi-même, et le résultat, eh bien, c'est qu'on a des idées noires. Mais laissez-moi vous dire que si vous avez dans un moment de difficulté, que vous allez dans la nature, que vous regardez la création du Seigneur, que vous contemplez les montagnes qu'il a faites, que vous regardez chaque flocon de neige, quand on sait que chacun est différent, il n'y en a aucun qui est pareil que l'autre. Et quand on se dit que le Seigneur, il a pris soin de faire chaque flocon de neige différent, alors est-ce que pour chacun d'entre nous, il ne va pas s'occuper de nous de la meilleure des manières? Oui, je le crois. Il y a des lois dans le royaume de Dieu, et la semaine dernière, on a vu la loi du puits sans source, le puits bientôt tari. Notre cœur est comparé à un puits. Mais à un moment donné, si on épuise toute l'eau, eh bien, on va être épuisé. Justement, c'est le cas de le dire. Et on a besoin que le Seigneur vienne renouveler sa présence dans notre vie. On a parlé aussi de la loi du petit. Alors tout à l'heure, j'étais content parce que quelqu'un m'a donné quelque chose que je vais vous montrer maintenant, qui illustre très bien la loi du petit. C'est ce qu'on a parlé la semaine dernière. Et la loi du petit, c'est quoi? C'est que de la graine de moutarde qui est là, que vous pourrez venir voir tout à l'heure, le Seigneur est capable de faire quelque chose de très grand. Il y a des plantes de l'arbre de cette qui viennent de la graine de moutarde qui peuvent atteindre 2 à 3 mètres même. Et c'est vraiment impressionnant de se dire qu'à partir de cette petite graine, le Seigneur est capable de faire quelque chose de grand. La loi du petit, c'est ça, c'est que Dieu produit le grand de ce qui est petit. Si nous voulons grandir spirituellement, si nous voulons grandir dans notre vie, si nous voulons être bénis par le Seigneur, il faut être tout petit devant lui. Il faut être petit à nos propres yeux. Il faut être humble. Il faut savoir s'humilier. Il faut savoir se repentir. Et le Seigneur, après, manifeste sa bénédiction.
Amen.
Aujourd'hui, je voudrais qu'on voit 3 lois très rapides, parce que vous allez voir que c'est des choses qu'on connaît déjà, mais qui nous montrent vraiment comment ça marche dans le royaume de Dieu. Et on pourrait dire que les lois du royaume de Dieu, on pourrait dire que ce sont les lois de l'esprit aussi. Ce sont les lois spirituelles. Ce sont les lois qui concernent l'esprit qui habite en nous. Nous qui avons fait la démarche de donner notre vie au Seigneur. Oui, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, nous pouvons lire ceci, qui nous parle de la première loi. Nous allons voir la loi de la transmission, de la translation et de la transformation. Première loi, dans 1 Corinthiens chapitre 2, et le verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélés, comment? Par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. On va dans 2 Corinthiens, donc la lettre suivante des Corinthiens, au chapitre 13 et au verset 14, c'est la conclusion de cette épître que Paul a écrite aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, pardon. 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Nous voyons que s'il y a quelque chose qui caractérise la Trinité, il y a l'amour de Dieu, la grâce de Jésus-Christ et la communication du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut communiquer avec nous. Le Saint-Esprit veut nous parler. Et c'est ça la loi de la transmission, c'est que s'il n'y a pas de communion avec le Saint-Esprit, on ne peut pas accéder, on ne peut pas recevoir de transmission divine. De la même manière que quand on a un portable, il y a certains endroits où l'on va qui font qu'on n'a pas de réseau et qu'on est totalement coupé du monde. Alors hier j'ai testé, mon portable il marchait très bien à la montagne, c'est pas cet endroit que je veux parler, mais il y a des endroits même des fois dans au fin fond du Tarn-et-Garonne où le réseau par contre il marche pas du tout. Et dans nos propres vies de manière spirituelle, il y a aussi des endroits spirituels, c'est pas des lieux géographiques mais c'est des moments de nos vies où peut-être parce qu'on a un péché qui est là qui empêche, qui nous sépare de Dieu, cela nous empêche de recevoir ce que le Seigneur voudrait nous donner. Parfois le téléphone est éteint, parfois il ne capte pas, parfois on ne décroche pas, parfois il y a des interférences, il y a toutes sortes de raisons qui font qu'on capte pas. Mais spirituellement c'est la même chose. Il y a beaucoup d'obstacles à la transmission divine. Mais Dieu, il a anticipé tout cela, il a surmonté tous les obstacles et il nous propose à nous maintenant qu'il veut nous parler, il veut nous donner quelque chose au travers par le biais de son Saint-Esprit. Dieu a envoyé son Fils qui s'est abaissé vers nous en prenant une forme humaine. Dieu, il aurait pu envoyer que des anges, il aurait pu que montrer sa gloire de la manière qu'il a fait avec le peuple d'Israël, avec la montagne qui était embrasée par le feu, avec l'interdiction de chacun de toucher cette montagne sous peine de mort. C'était des choses incroyables. Il y avait les 10 plaies d'Égypte, des moments particuliers qui montraient la puissance de Dieu. Mais Dieu, il a choisi de montrer sa grandeur par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui vient comme un serviteur, comme un homme simple. La Bible nous dit que la parole a été faite chair, c'est Jésus. Donc la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Vous voulez connaître mieux Dieu ? Regardez à Jésus. Regardez à la simplicité et à la puissance et à l'amour du Seigneur Jésus, et vous allez mieux comprendre Dieu. Notre cœur était mort par nos péchés, nous dit la parole, mais Dieu a choisi que ce moyen pour lequel nous puissions capter à nouveau toute la grâce de Dieu, ça soit par l'exemple de Jésus-Christ et par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Les choses de Dieu dépassent notre intelligence, vous êtes d'accord ? Il y a des choses qui nous dépassent. Quand on contemple la création, on se dit, mais oui, mais comment ça se fait ? Quand on contemple l'univers, les milliards et les milliards d'étoiles qu'il y a dans le ciel, pourquoi est-ce que Dieu a fait tout cela ? Ça nous dépasse. David a dit, une science aussi élevée est au-dessus de ma portée. Paul, il a dit à un moment donné, alors qu'il part de son expérience dans le paradis, qu'il a entendu des paroles ineffables, qu'il n'est même pas permis à un homme d'entendre. Ça veut dire que les choses de Dieu nous dépassent vraiment. Et pourtant, Dieu, il a pris soin, pendant les siècles, d'inspirer des hommes de toute origine. Il a inspiré par son esprit des princes, des bergers, des légistes, des sacrificateurs, des pêcheurs, des faiseurs de tentes, toutes sortes de personnes, de toutes sortes d'époques différentes, pour nous transmettre à nous un message intelligible, un message qu'on peut comprendre simplement en le lisant. Pourtant, c'est quelque chose qui a la marque du ciel. La Bible porte ce témoignage en elle-même, parce que c'est le livre de l'Antiquité le mieux conservé de tous les autres. Toutes sortes de livres qui nous sont entre les mains, dans lesquels on ne remet pas en question. Et la Bible, il y a tellement plus de manuscrits qui attestent que c'est vraiment ce message qui a voulu être transmis au travers des siècles. Quand on parle de la guerre des Gaules, par exemple, de César, ou le livre de l'Iliade et de l'Odyssée d'Homère, qui c'est qui remet en question ça, que ça existe ? Et le contenu, qui va le remettre en question ? Pourtant, il n'y a que très peu d'exemplaires originaux qui subsistent, alors que la Bible, il y en a des milliers, qui nous montre que Dieu a pris soin au travers des époques, que ce livre puisse être entre nos mains. Le livre le plus vendu aujourd'hui, c'est la Bible encore, parce que le plus répandu même, parce que souvent il est donné ce livre, parce que c'est le livre que Dieu à utiliser pour nous transmettre sa parole. C'est comme ça que Dieu veut qu'on puisse accéder à sa parole. Mais il le met à notre portée, c'est ça qui est merveilleux. Et de plus en plus de personnes l'ont entre les mains. Il y a des peuples au fin fond de l'Afrique, des tribus qui sont très peu nombreuses, mais qui commencent à avoir des morceaux de la Bible entre leurs mains, dans leur langue. Et c'est comme ça que Dieu est en train de permettre que son esprit agisse dans les cœurs. Un autre moyen que Dieu utilise pour transmettre sa bénédiction sur les hommes et les femmes de la terre, c'est l'Église. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». C'est une œuvre que Jésus fait par le Saint-Esprit, bien sûr, et il veut que chacun d'entre nous en particulier, nous soyons entourés d'un frère et d'une sœur qui va nous faire grâce, qui va prendre soin de nous, qui va nous encourager, qui va nous manifester de l'amour. Et il veut que nous trouvions notre place au sein de ce corps. L'Église, c'est le corps de Christ. Et John Wesley, un pasteur anglais, a dit ceci un jour. « Je veux le Christ tout entier pour mon sauveur. Je veux la Bible tout entière pour mon livre. Je veux l'Église tout entière pour ma communion. Et je veux le monde tout entier pour mon champ de mission. » Je crois que ça résume bien ce à quoi nous sommes appelés. Ça résume bien ce que Dieu a fait, ce que Dieu met à notre portée pour que nous puissions recevoir le message qu'il nous transmet. La loi de la transmission, c'est que si il n'y a pas la communion avec le Saint-Esprit, alors il n'y a pas possibilité de recevoir ce que Dieu veut nous donner. Mais la Bible nous dit clairement qu'il y a une transmission continuelle, incessante de la part de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en ce moment, Dieu parle. Ça veut dire que quand je vais fermer la porte de l'église tout à l'heure, que je vais rentrer chez moi, Dieu parle. Ça veut dire que quand je suis au milieu d'une foule, à l'extérieur, dans un match de foot, Dieu parle. Mais qu'est-ce qu'il est dit après? Mais l'on n'y prend point garde. Il y a des moments où on est plus attentif que d'autres. C'est sûr, quand on est au milieu d'une foule bruyante, c'est plus difficile quand même de se concentrer pour recevoir. Mais le Seigneur est capable de parler. Il y a un homme, justement, qui s'appelle Smith Wigglesworth, pour ceux qui connaissent, qui avait pris la résolution de rester dans la communion spirituelle avec le Seigneur, communion continuelle. Il faisait pas de manière précise, ça lui arrivait quelquefois, mais il passait pas des heures et des heures à prier, comme certains d'autres l'ont fait, mais lui, il tournait son cœur vers le Seigneur. Continuellement, il essayait de recentrer ses idées sur le Seigneur. Et parfois, il était entouré d'une foule et les gens ne faisaient pas attention à lui, mais lui, il était en train de prier. Il était en train de chercher Dieu. Ça m'est arrivé, moi, des fois, d'être entouré d'une foule dans un bus, et le temps passait, et à part attendre et se rester bien accroché pour pas tomber, on n'avait rien à faire de spécial. Et dans ce moment-là, de rechercher le Seigneur et de vivre un temps de bénédiction. Alors qu'il y a une foule tout autour. Mais c'est pas ça qui empêche de recevoir la transmission. Ce qui permet que le Seigneur nous parle, c'est que si notre cœur est disposé, si on est sensible à la voix du Saint-Esprit qui parle. Ce matin, le Saint-Esprit parle dans ces moments. Qu'est-ce que nous recevons de sa part? Quand on étudie la parole, on se rend compte qu'il y a beaucoup et beaucoup et beaucoup de choses que le Saint-Esprit transmet. Je me suis amusé à noter plusieurs versets qui parlent de toutes les fois où il est dit « Faites ceci par l'Esprit ». Et on se rend compte que c'est le Nouveau Testament, il est rempli d'ordonnances comme ça qui nous parlent de ce que le Saint-Esprit communique à son Église. La Bible nous parle d'ordre, de volonté, de foi qui nous ont été transmises. Et voici quelques-unes des choses de cette liste. L'amour. L'amour de Dieu est répandu par le Saint-Esprit dans nos cœurs. L'amour de Dieu est répandu dans le Saint-Esprit. Quelqu'un manque d'amour ce matin ? Ça peut arriver de manquer d'amour ou pas. Ça peut arriver de se sentir seul. Ça peut arriver de se poser des questions sur notre propre vie. L'amour de Christ est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La paix, la joie, la patience, le fruit de l'Esprit, hein, vous connaissez toute cette liste. Mais il est question aussi d'être puissamment fortifié dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quelqu'un manque de force ce matin ? Ça peut arriver aussi de manquer de force. On le disait la semaine dernière, parfois on est épuisé, parfois on est découragé, parfois nos bras tombent et on ne sait pas quoi faire. Le Saint-Esprit est celui qui puissamment peut fortifier notre être intérieur. Alors que tous les moyens médicamenteux et toutes les paroles avec les psychologues et tout ce que vous voulez, je remets pas ça en question, mais on essaye tout ça et ça sert à rien. La Bible nous parle de personnes qui sont allées voir les docteurs, qui ont fait le tour de tous les côtés et qui sont retournées pire que ce qu'ils étaient avant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais aller voir le docteur, attention. Mais il y a des fois où on essaye tous les moyens humains et ça ne marche pas. On a besoin que par le Saint-Esprit, il y ait une puissante visitation au fond de notre être pour qu'on soit fortifié et que les choses puissent changer. Parfois, c'est d'autres difficultés qui sont là. Je parlais avec un pasteur qui me racontait ce témoignage de cet homme. C'était un homme qui était un dealer. Un dealer et sa copine, c'était une musulmane, mais elle avait des manifestations démoniaques. Et la difficulté, c'est que lui, il vivait les conséquences de cela. Et cet homme, il a tapé sur YouTube, ça s'est passé il y a quelques mois, hein, il a tapé sur YouTube « Meilleure guérison ». Alors sur YouTube, il tape ça, et puis il est tombé sur un site d'une église à Toulouse. Alors il est allé à Toulouse, à l'église, il a voulu rencontrer le pasteur, et il lui dit « Voilà, ma copine donc elle a des manifestations particulières, elle touche à des choses qui sont pas bonnes, alors je voudrais que vous puissiez m'exorciser pour que moi, j'ai rien à retirer de ça, quoi, que je subisse pas les conséquences. » Et puis, là, en parlant avec lui, le pasteur, et vraiment, il entend la voix du Saint-Esprit qui lui montre que l'homme, il demande en fait un acte superstitieux magique. Mais c'est pas ça dont il a besoin. Parfois, on demande que Dieu intervienne, mais on le demande à notre façon, dans notre entendement à nous, et ça correspond pas à ce que Dieu veut transmettre. Mais ce pasteur qui est là, qui reste dans la communion avec le Seigneur, il lui propose autre chose. Il lui dit, voilà, je vais prier pour toi, mais pas pour que tu sois exorcisé. Je vais prier pour toi pour que Christ habite dans ton cœur par la foi. Et cet homme, donc, il est un peu déçu au début. Mais finalement, ce que le pasteur lui dit l'interpelle et il commence à venir aux réunions, il commence à entendre la parole, il commence à lire la Bible, il commence à prier. Et il y a vraiment une œuvre qui se fait dans son cœur et Christ va venir habiter en lui, il se convertit vraiment au Seigneur et il va amener des dizaines de personnes de sa famille à l'église qui vont aussi se donner au Seigneur. Tout ça parce qu'à un moment donné, le Saint-Esprit a parlé et un homme a été capable de recevoir la transmission. Quand on reçoit de Dieu la transmission par le Saint-Esprit, alors il y a une bénédiction qui est communiquée. C'est obligatoire. Ça revient aux lois dont on parlait, la loi du fruit, où le Seigneur, quand il sème quelque chose, ça porte du fruit. C'est obligatoire quand on reçoit quelque chose de la part de Dieu. Alors il y a un fruit. Il y a une bénédiction, il y a une grâce. C'est ça la loi de la transmission. Est-ce que nous voulons être bénis? Alors soyons attentifs au Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de dire dans ces moments? Un deuxième passage dans Galates au chapitre 5, un troisième pour être exact, dans Galates au chapitre 5, au verset 16, un verset très court qu'on connaît bien. C'est Paul qui s'adresse aux Galates et qui leur dit ceci, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Marchez selon l'esprit car et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Bien sûr qu'il n'est pas question de la loi française, hein. C'est question de la loi mosaïque. Mais on voit qu'il y a une opposition entre le fait de marcher par l'esprit et le fait de marcher selon la chair. Le problème qu'il se trouve aujourd'hui, c'est qu'on entend des gens qui disent « Moi, je suis neutre. Moi, je crois pas. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc, je pense que ça n'existe pas. Donc, je suis pas soumis à ces lois-là. » Mais ça, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec une loi, même dans l'État français, que la loi n'existe pas. C'est pas parce que je suis pas d'accord que, je sais pas moi, que quand je fais un excès de vitesse, il faut payer une amende, que l'État va pas venir me chercher pour que je paye l'amende. Vous comprenez? C'est pas parce que je suis pas d'accord que la loi n'existe plus. La loi, elle est là, et même si je ne suis pas d'accord, je dois me soumettre. Le problème qui se passe dans notre génération, c'est que beaucoup méprisent ce que la Bible dit, mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a des lois qui sont là. La loi de la translation, c'est laquelle? C'est que si je n'avance pas par le Saint-Esprit, je recule. On croit parfois qu'il existe un milieu neutre où on peut rester comme ça sans que rien ne se passe. Mais non, on ne peut pas être immobile spirituellement. C'est impossible. Parfois, des gens qui viennent dans l'église, qui sont entre deux chaises, comme on dit, sont là et ils pensent que tout va bien pour eux parce qu'ils sont un petit peu dans l'église, un petit peu dans le monde. Mais non, ça ne fonctionne pas. Soit je marche par le Saint-Esprit, soit je recule et je marche selon la chair. C'est l'image qui est là, c'est comme un tapis roulant. Soit j'avance sur le tapis roulant et je peux avancer, un tapis roulant qui va dans l'autre sens. Mais si je m'arrête à un moment donné, ben, le tapis roulant, il me ramène en arrière. Et donc, si je m'arrête souvent, si je fais 3 pas et que je m'arrête 3 secondes, eh ben, j'avance pas dans ma vie. Voilà pourquoi on trouve parfois des chrétiens qui ont entre leurs mains la parole de Dieu, qui ont accès à la communion fraternelle, qui entendent des prédications, qui même peut-être prient chez eux, mais qui n'avancent pas parce que ils avancent pour un temps et puis ils attendent. Ils avancent pour un temps et puis ils attendent. Et le résultat, c'est qu'ils n'avancent pas du tout dans leur vie. Est-ce que je peux me retourner dans ma vie et puis regarder l'année 2017, par exemple, et dire « En 2017, j'ai fait tel progrès dans tel domaine. En 2017, je suis devenu plus patient que 2016. En 2017, je suis devenu plus généreux que 2015, peut-être. En 2017, je me suis mieux occupé de ma famille qu'en 2016. » Est-ce qu'on peut regarder les années en arrière? Parfois, vous savez, on prend ce verset qui a été cité tout à l'heure. Toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc le passé, je m'y intéresse pas du tout. Mais moi, je suis pas d'accord. C'est bien des fois de regarder le passé, de dire où c'est que j'ai fait des progrès, où c'est que peut-être je me suis planté. Ça, des fois, on a des failles, des fois on tombe. Mais le Seigneur est celui qui veut nous aider. Et je peux vous dire qu'on apprend jamais plus par, on apprend beaucoup plus par nos échecs que par nos victoires. Quand on a des échecs, c'est là qu'on se dit « mais je me suis pris ce mur, la prochaine fois je vais éviter ce chemin ». C'est aussi simple que ça. Tandis que quand tout réussit, tout va bien, mais on ne fait pas attention forcément aux choses. Mais quand on a des échecs, et que le Seigneur nous relève, que le Seigneur modèle notre cœur, alors on peut avancer. Je me souviens de ce responsable de jeunesse qui avait dit cette parole, ce conseil incroyable, à des jeunes qui priaient beaucoup. Il leur disait, ne priez pas trop, vous allez vous brûler les ailes. La foi, ça commence fort. La foi, c'est merveilleux au début. C'est le feu du premier amour. Mais petit à petit, vous allez voir, ça va se calmer. Ça, c'était le responsable de jeunesse qui disait ça à des jeunes pour les encourager. Enfin, entre guillemets. Le problème, ou la bonne chose, c'est que les jeunes, ils n'ont pas écouté ce qu'il a dit. Ils ont continué de prier. Et beaucoup de ces jeunes sont devenus serviteurs de Dieu. Et le responsable de jeunesse, lui, il a arrêté. Parce que c'était pas sa place, finalement. Il s'est mis en retrait par rapport à l'église. Parce que la foi, ça commence fort. Oui, ça, je suis d'accord. Mais ça progresse tous les jours. Que votre amour augmente de plus en plus. Si votre foi est plus faible que hier, alors c'est qu'il y a un problème. Mais si votre foi grandit, ça veut pas dire faire des bons spectaculaires, mais c'est pas après pas. Ma foi grandit. Je acquiers de la maturité, je viens de plus en plus fort spirituellement. Bien sûr que celui qui est debout prenne garde de tomber, mais au contraire, quand je deviens fort spirituellement, ben j'aide celui qui est faible, je prie pour celui qui est découragé, je visite celui qui est affligé, etc., etc. Le Seigneur me permet d'avancer sur ce chemin. Soit on marche sur le chemin de la vie, mais si on marche pas sur le chemin de la vie, alors c'est le chemin de la mort, nous dit la parole. Quelqu'un va me dire, ben oui, si celui qui n'avance pas et recule, ça veut dire qu'il faut que j'avance tous les jours, ça veut dire qu'il faut que je fasse des efforts tout le temps, ça veut dire que je peux jamais me reposer, je suis toujours fatigué, je vais essayer de faire mon maximum, mais à un moment donné, je suis épuisé, j'en peux plus. Alors comment faire quand on est épuisé? Est-ce qu'on doit s'arrêter sur le bord du chemin? Ben non. Parce que si on s'arrête sur le bord du chemin, le tapis roulant, il est toujours là. Il nous ramène en arrière. Comment faire quand on marche sur le chemin de la vie pour se reposer? Vous avez réfléchi à cette idée? Et ce que je vais vous dire, je crois vraiment que c'est le Seigneur qui le dit à quelqu'un ce matin. C'est une image qui m'a frappé quand je priais ce matin. La réponse, elle est simple. C'est qu'il faut entrer dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est pas justement de s'endormir sur la chaise le dimanche matin. Le repos de Dieu, c'est pas de se mettre sur le côté en disant « bon, j'en ai marre, j'ai fait tous mes efforts, ça marche pas ». C'est pas ça le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est de se mettre dans les bras de Jésus et de le laisser nous porter. Et c'est lui qui avance. Vous voyez la différence? Quand Jésus avance, quand Jésus marche et que nous sommes dans ses bras, qu'il nous tient dans sa main, alors on peut se laisser reprendre des forces. Et le Saint-Esprit est là, celui qui veut fortifier notre âme. Il le fait toutes les fois où nous sommes serrés, blottis contre les bras de notre Père Céleste. Le repos du cœur, c'est de s'abandonner dans les bras de Jésus. Se reposer contre son cœur. Vous avez déjà pris votre enfant contre votre cœur? Qu'est-ce qu'il vous dit? Ah, il vous dit, papa, j'entends ton cœur battre. Et c'est exactement cette image-là, quand on prend le temps d'écouter battre le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, il bat au rythme de l'amour, au rythme de la grâce, au rythme de la bénédiction. Et croyez-moi, si vous êtes épuisé, ben les bras du Père, ils sont grands ouverts pour vous prendre et pour vous permettre de vous reposer. Voilà ce que c'est la loi de la translation. Et je termine avec la loi de la transformation. Romains, chapitre 12, verset 2, un texte qu'on connaît bien aussi. Romains, chapitre 12, verset 2. Même verset premier, hein. Romains 12, verset 1er, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Est-ce que vous êtes convaincus de cette parole ce matin pour vous, frères et sœurs? La volonté de Dieu, contrairement aux idées qu'on entend des fois, comme le disait Michel tout à l'heure, parfois on a une image faussée de Dieu qui est un père fouettard, un être là qui est méchant, qui veut nous juger seulement. Non! La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait, on puisse le vivre ici-bas sur la terre. Quelles que soient les circonstances. Mais pour cela, il faut vivre, être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Il faut pas se conformer au monde présent. Le monde présent nous dit toutes sortes de choses. Mettez-vous pendant une semaine d'affilée devant la télé et vous allez voir que votre vie va changer, mais pas dans le bon sens. Vous allez vous conformer au siècle présent, mais ça va pas avoir de bons résultats. Je peux vous le dire. Rien que pour l'aspect physique de rester devant un écran, c'est très mauvais pour la santé. Mais en plus, toutes les idées et toutes les faussetés qui sont véhiculées, même parfois des médias où on a l'impression qu'on va avoir une bonne information, il y a des choses négatives qui passent par derrière. Mais la Bible nous donne un moyen d'être transformé. C'est que le Saint-Esprit vienne renouveler notre intelligence. Regardez, dans 2 Corinthiens encore, au chapitre 3, verset 18, c'est la suite de ce qu'on a lu tout à l'heure. 2 Corinthiens, chapitre 3, et le verset 18, il est dit ceci, « Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes quoi ? Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » C'est le Saint-Esprit qui nous transforme toutes les fois où nous faisons quoi ? Où nous contemplons le visage du Seigneur. Bien sûr, c'est pas quelque chose de physique, mais c'est quelque chose de spirituel dans notre cœur, dans notre chambre, où on ferme les yeux et on dit « Seigneur, je veux voir ta face. Seigneur, je veux te connaître davantage. Seigneur, je veux vivre un instant du ciel sur la terre. » Quand on vient dans cette disposition de cœur devant Dieu, ce n'est pas de répéter des prières mécaniques qui vont nous permettre d'être transformés. Bien au contraire, c'est quand nous approchons avec simplicité du trône de la grâce et que nous contemplons le Seigneur. Que nous contemplons son amour, sa toute-puissance, sa bonté. Peut-être que si nous avons vécu des expériences de guérison, des expériences de bénédiction particulière et que ces choses repassent dans notre cœur, nous sommes transformés en l'image de Jésus. Vous avez déjà essayé de ressembler à Jésus-Christ par vos propres forces? Vous avez déjà essayé d'être patient par vos propres forces? Mais ça dure pas longtemps. D'aimer quelqu'un par vos propres forces, mais ça marche pas, je peux vous le dire. J'ai essayé des fois d'aimer des gens par mes propres forces, et ben il y avait pas d'amour qui venait du tout. Parce que des fois les gens ils nous ont fait mal, ils nous ont blessés. Et l'amour il vient pas humainement. Mais par contre, dès l'instant où j'ai contemplé Jésus-Christ, j'ai contemplé son amour à la croix. J'ai dit, ben Seigneur, toi qui as pu dire cette parole, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu avais de l'amour pour tes ennemis, Seigneur, toi. Alors moi, donne-moi cet amour. Donne-moi pas mon amour, me permet pas d'aimer avec mes forces, ça marche pas. Mais donne-moi ton amour à toi, ça marche. Et quand j'ai fait cette prière, le Seigneur m'a donné de l'amour. J'ai vu des gens être transformés. J'ai vu des gens être totalement changés dans leur vie dès l'instant où ils sont approchés de Dieu. Il y avait un jeune homme, je me souviens, qui était drogué, qui était dans l'alcool, qui faisait la fête tous les soirs. Et je me souviens que le jour où il s'est approché de Dieu en toute simplicité, le Seigneur l'a totalement délivré de la drogue, il l'a délivré de l'alcool, et il en a fait un serviteur de Dieu. Je me souviens d'un autre jeune homme, qui était aussi, lui il était dans le hard rock, il avait un blouson en cuir, et il avait les cheveux longs, et il avait dans sa chambre plein de posters de hard rock, avec des têtes de mort et tout ce que vous voulez, et il écoutait ça en boucle toute la journée, des musiques très fortes. Mais le jour où le Seigneur a touché son cœur, par toutes sortes de circonstances, et qu'il a été sensible à la voix du Saint-Esprit, mais sa vie a totalement changé. Ce jeune homme, il a été un moyen de bénédiction. Je l'ai vu après dans un colo, je me souviens de ce témoignage, dans une colo, il s'occupait des ados, et tellement sa vie avait été tellement transformée que tous les ados qui étaient dans son groupe se sont convertis au travers de lui, parce que cet homme a été transformé. La question qui se pose, c'est est-ce que je veux vivre la transformation? La loi de la transformation, c'est ça. Quand on marche par le Saint-Esprit, alors on est transformé. Ça se voit. Il y a quelque chose qui change dans notre vie. Et c'est pas parce qu'on a changé il y a 20 ans en arrière, parce qu'on s'est converti il y a 20 ans en arrière, qu'aujourd'hui on ne peut pas changer. La question qu'il faut se poser, c'est dans quel domaine est-ce que j'ai besoin aujourd'hui de transformation? Est-ce que c'est dans mon couple? Est-ce que c'est envers l'amour, envers mes enfants? Ou envers ceux de ma famille? Est-ce que c'est envers mes collègues de travail? J'ai besoin d'être transformé, parce que des fois c'est dur. Des fois il y en a qui me font la tête et il faut supporter, c'est pas évident. Envers mes voisins? Et on pourrait multiplier les exemples, mais voilà, le Seigneur nous dit, mais dans quel domaine? Toi, mon enfant, est-ce que tu as besoin d'être transformé? Par le Saint-Esprit, c'est possible. Viens contempler le visage de Jésus-Christ mort à la croix et ressuscité. Regarde les bras grands ouverts du Seigneur et crois que le Seigneur veut te permettre de marcher par l'Esprit. On va prendre ensemble un chant. Je vais demander aux musiciens de venir. Un chant qui est tout simple, qui nous dit « Viens me transformer. Viens tout diriger. Prends la place qui te revient. » Et je voudrais vous inviter à vous lever en prendre ce temps comme une réponse à cette prédication. S'il y a bien des moments où on ne prend pas garde à la voix du Seigneur, ce matin par contre, nous avons simplement ouvert la parole ensemble, vous avez vu. Et le Seigneur nous met devant nos yeux ses lois. Il veut nous transformer. Il veut nous transmettre quelque chose. Il veut nous permettre d'avancer. Est-ce que nous allons répondre à son appel ? Avant qu'on chante, je vais prier le Seigneur une dernière fois. Éternel, merci pour ces lois qui nous montrent que tu es le Dieu qui règne. Tu es le Dieu qui veut que dans nos vies, nous puissions goûter à ta paix, à ta joie. Quelles que soient les circonstances de nos vies. Tu connais, Seigneur, ce matin mon frère, ma sœur, et les circonstances de sa vie. Tu sais, Seigneur, s'il est en train de faire des progrès avec toi. Tu sais, Seigneur, s'il peut-être s'est arrêté sur le bord du chemin, croyant que c'était comme ça qu'il fallait faire, plutôt que de se reposer en toi et de continuer d'avancer, parce que c'est toi qui le portes. Je te prie, Seigneur, que ton amour soit retentissant ce matin, que ton amour soit communiqué par le Saint-Esprit, maintenant dans les cœurs, pour montrer que tu es le Dieu qui veut nous prendre dans tes bras d'amour. Tu es le Dieu qui veut nous conduire sur ce chemin de la vie. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, dans ces instants, puisse faire l'œuvre que nous ne pouvons pas faire. Que ton Saint-Esprit puisse convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement. Que ton Saint-Esprit puisse transformer les vies qui sont sous l'emprise des ténèbres dans des vies qui sont totalement libérées. Que ton Saint-Esprit puisse guérir les corps qui sont malades. Seigneur, nous ne pouvons pas le faire, mais toi tu peux, parce que tu es le Dieu qui règne. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, vienne embraser nos cœurs, nous donner encore plus de ferveur, encore plus de zèle, encore plus d'amour pour être ses témoins dans ce monde. Oui, Seigneur, viens nous transformer. Viens tout diriger dans nos vies. Prends la place qu'il te revient, Seigneur. Amen.